Pour une deuxième journée consécutive, je voudrais attirer votre attention sur le Forum mondial social qui va commencer ce soir, qui va s'ébranler, même ce soir, devrais-je dire, puisque ça va commencer par une marche, par une rencontre au parc La Fontaine, puis une marche qui va nous amener jusqu'au Palais des Festivals. Il va y avoir beaucoup d'événements. Nous en parlions hier avec Marie-Ève Veilleux. Et parmi les événements attendus, il va y avoir une conférence présentée le 12 août prochain. Et l'une des deux personnalités qui sera présente à cette conférence, c'est Laurence Parent. Bonjour Laurence.
Bonjour.
La vie est bonne en ce moment?
Oui, ça va bien.
Est-ce que ça vous fait plaisir, Laurence? Est-ce que pour vous, ce Forum mondial social, est-ce que c'est au milieu encore de l'ombre, au milieu du brouillard, au milieu de toutes ces décisions qui ne se prennent pas, est-ce que c'est un trou dans les nuages? Est-ce qu'on peut y croire?
Ben, je pense que c'est sûr, c'est excitant pour tous les gens qui ont mis beaucoup d'énergie, de temps pour organiser tout ça. Puis, je pense qu'il y a une place importante. En fait, c'est important, je crois, pour notre société d'avoir des événements comme ça. Alternatif.
C'est ça, exactement. Alternatif, parce que là, il faut bien dire que c'est vraiment un mouvement citoyen au départ.
Hein. Ouais, vraiment. Les gens qui ont été impliqués dès le départ, c'est essentiellement des bénévoles, là, notamment dans le cas du comité handicap et culture sourde. C'est vraiment des personnes handicapées bénévoles qui ont investi énormément de temps, des alliés également, mais...
Ouais,
j'ai des amis proches qui ont donné beaucoup de temps. Là. Donc... C'est vraiment important.
Oui, puis c'est fantastique. Ce que j'espère, et c'était ce que je disais hier à Marie-Ève Veilleux, c'est que tout cela aura un écho auprès de décideurs politiques, économiques, voilà quoi.
Oui, bien, on est chanceux que cette année, ce soit à Montréal, parce qu'il y a le sentiment de proximité, puis on peut discuter davantage d'enjeux locaux.
Oui.
Puis également pouvoir rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde, en fait, ceux qui ont été capables de venir.
Exactement, parce qu'on sait que malheureusement, il y en a beaucoup aussi qui ont été refusés. Hein. Bon,
c'est ça. Puis si on pense aussi aux personnes handicapées, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour une personne handicapée de voyager, je reviens juste du Chili, puis ça a été toute une aventure, là, le transport aérien, c'est toujours un stress pour... le transport des aides à la mobilité, une personne qui a besoin de soutien de voyager avec un accompagnateur ou une accompagnatrice, des frais supplémentaires. Donc, c'est vraiment tout un défi de voyager.
D'ailleurs, Laurence, vous me tendez une perche quand même pour repréciser si des fois on ne vous connaissait pas encore, que vous êtes vous-même une jeune femme handicapée. Vous avez quoi, une trentaine d'années?
Oui, 31 ans.
Voilà. Vous êtes fondatrice, cofondatrice, entre autres, de Québec Accessible, qui est là aussi, d'ailleurs, déjà un groupe citoyen.
Oui.
Hein, qui vise à faire adopter une loi québécoise, hein, finalement, en matière d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées.
Alors, exactement.
Alors, vous étiez, comme je l'ai dit hier à Marie-Ève Veilleux, une bonne personne pour faire partie de ce comité-là. Et au sein, donc, je le disais un petit peu plus tôt, dans ce comité-là, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des rencontres, à laquelle vous allez peut-être participer d'ailleurs, ou pas du tout.
En fait, il y a tellement de choses qui se passent, mais Québec Accessible a notamment deux activités portant spécialement sur les lois en matière d'accessibilité, donc une première au sujet des lois québécoises et canadiennes, puis une autre activité, ça va être un panel international où là, il va y avoir des invités qui vont parler de différentes lois dans différents pays, notamment. Également, je vais participer avec Marie-Ève Veilleux à un atelier sur les réseaux sociaux et l'activisme.
Oui.
C'est ça qui est vraiment quelque chose qui change la donne de plus en plus. Mm-hmm. Là. Puis le vendredi, il y a une grande conférence sur le capacitisme et l'audisme.
Oui. Et là, je voudrais que vous nous en parliez de ce... Parce que honnêtement, moi, le mot capacitisme, je l'ai découvert grâce à vous. Mm-hmm. C'est un mot que je ne connaissais pas. Alors, je voudrais que vous... Qu'est-ce qu'il renferme, ce mot-là? Qu'est-ce qu'il évoque?
En fait, c'est tout à fait normal que vous ne le connaissiez pas parce qu'il n'est pas encore dans le dictionnaire.
Eh bien, il le faut. On va se battre.
Oui. Mais il est dans le Termium Plus, qui est un outil linguistique du gouvernement du Canada, également dans l'Office québécois de la langue française, qui a également un dictionnaire en ligne. Donc, c'est un terme qui commence à être connu de plus en plus. En fait, je résumerais... ça signifie une discrimination fondée sur les capacités. Donc, on peut penser capacité au niveau physique, sensoriel, intellectuel, cognitif. Mm. Donc, c'est un autre isme. L'audisme également, donc système de discrimination fondé sur la capacité d'entendre et notre monde est vraiment construit beaucoup sur l'audition avec puis c'est ça là, ça nous permet de penser à toutes ces métaphores qu'on utilise notamment faire la sourde oreille, ne pas voir, faire les mots me manquent mais
non mais oui absolument
cas, donc d'être capable de c'est de se tenir debout, donc d'être capable de ne pas lâcher. Puis tout. Oui. Donc, c'est vraiment tous des termes qu'on utilise, qu'on ne se rend pas compte, mais qui font référence, dans le fond, souvent au handicap, à la différence. Puis, dans le fond, le capacitif, c'est ça. La discrimination fondée sur le handicap, sur les capacités.
D'accord.
Puis, qui est, dans le fond, fondée sur un système qui, dans le fond, valorise beaucoup une espèce de norme. Mm-hmm. Donc, on imagine l'être humain typique, par exemple, doit marcher, doit entendre, doit voir selon vraiment une norme. Mais en fait, on se rend compte, quand on y pense vraiment, que cette norme-là, elle est plutôt fictive.
Mm-hmm.
Parce que, je veux dire, il y a toutes sortes, pour toutes sortes de raisons, la majorité des gens vont dévier de cette norme-là. Mais le système va faire avancer l'idée qu'elle existe bel et bien, puis qu'elle est nécessaire en fait à performer pour avoir un emploi, pour être reconnue socialement et tout ça.
Oui, absolument. Et aussi, vous savez, je vais être très honnête, quand j'étais petite, et je sais que je peux citer mon cas parce que c'était vrai dans beaucoup de familles qu'on habite en France ou qu'on habite ici. De la même façon qu'on me disait, finis ton assiette parce que il y a des mômes qui ont faim, à l'autre bout du monde, on me disait, si j'avais le rhume et que je voulais pas aller à l'école, regarde, arrête de te plaindre, regarde telle petite fille qui est en fauteuil roulant, elle a le droit qu'on la plaint. Et ça aussi, ça fait partie du capacitisme, cette façon encore qu'on a de prendre une personne handicapée en fauteuil roulant en pitié.
Oui, pitié et également en inspiration, comme un objet d'inspiration aussi beaucoup.
Oui.
Je veux dire, moi, c'est presque quotidien, là, où simplement parfois sortir de la maison, je reçois des félicitations. Juste à l'épicerie, là, tu sais, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il y a encore vraiment cette notion-là que la pitié puis tout ça, puis ça a des effets vraiment très, très négatifs, évidemment. Là. Donc, toute l'idée aussi que une personne handicapée doit surmonter son handicap, donc doit surmonter le handicap quand on l'imagine de façon très médicale.
Mm-hmm.
Alors que dans le fond, quand on réfléchit, quand on parle des personnes handicapées, ce qu'elles surmontent surtout, c'est les obstacles de la société, la discrimination qu'elles rencontrent.
Exactement, plutôt que les vrais obstacles, sauf peut-être les jours de neige. Hein?
Oui, mais en fait, les obstacles, oui, c'est ça. Ce sont les obstacles, mais ce ne sont pas... je veux dire, moi, j'utilise un fauteuil roulant. Ce que je surmonte à tous les jours, c'est pas le fait de ne pas me déplacer avec mes jambes, c'est les attitudes, c'est les obstacles dans l'environnement et tout ça.
Mais Laurence, encore une fois, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. On va bientôt assister aux Jeux paralympiques. Bon, c'est vrai qu'il reste qu'une minute et on pourrait en parler très longtemps, mais les Jeux paralympiques, souvent, on a aussi l'habitude de dire, et même moi, quand je vois des gens faire ce qu'ils font, je me dis, mais c'est une inspiration extraordinaire. Est-ce que je vous fâche quand je dis ça?
En fait, je pense qu'on peut être inspiré par les Olympiens en général.
Alors, c'est ça.
T'sais, donc, non, moi, c'est pas quelque chose qui me... Mais c'est sûr qu'il y a des effets. Parfois, c'est ça, on valorise beaucoup les paralympiens, c'est exceptionnel, mais c'est comme n'importe comme une personne non handicapée, c'est une minorité, je veux dire. La majorité des gens font de la course à pied pour le plaisir, pas pour se rendre aux Olympiques, c'est la même chose avec les personnes handicapées.
Vous avez d'excellents arguments, Laurence, c'est pour ça que je recommande à tous nos auditeurs d'aller entendre votre conférence qui se tiendra le 12 août prochain, donc ça c'est vendredi. À 18h, il nous reste 10 secondes.
Oui, je ne serai pas seule. Il va également y avoir Laurence Carter-Long et Pamela Witcher qui va parler d'autisme.
Merci et au revoir, Laurence.
Merci beaucoup.